Mercredi 25 janvier 2017, 6 degrés avec des nuages sur Victoria. Dernier appel pour l'embarquement du débrief. Restez bien accrochés à la fréquence 107.9 au cours de la prochaine heure. C'est Alexis Gagnon avec vous. Merci d'écouter CILS FM. Les infos du jour débutent tout de suite avec les deux bulletins de Denis Despines. Je vous retrouve dans 4 minutes avec la météo détaillée. En interview aujourd'hui vers 16h45, je parle de l'écrivain nobélisé Patrick Modiano avec Normand Hébert, un habitué de CILS. Bonne émission à tous. La production du débrief est rendue possible grâce au financement du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducom national et international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Thomas Mulcair a été direct en regard de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Il a déclaré dans un discours devant les députés néo-démocrates que le NPD n'hésitera pas à condamner les écarts de conduite et le langage du président américain. Le chef du NPD a aussi affirmé que le gouvernement Trudeau a l'obligation de dire aux Canadiennes et Canadiens quelles sont ses priorités avant de renégocier l'accord de libre-échange nord-américain. Sondage en provenance de la banque CIBC, on apprend que 46% des Canadiens n'ont pas de plan financier pour atteindre leur but, et ce même s'ils se sentent préoccupés par leur retraite. Et alors que 54% ont un plan, 64% d'entre eux disent avoir une vision à long terme dans laquelle est définie les étapes pour l'atteindre. 51% des répondants ont dit s'inquiéter, surtout de l'augmentation des soins de santé, 45% des imprévus et 43% de ne pas avoir suffisamment d'argent pour mener la vie qu'ils souhaitent. La population canadienne est appelée à se prononcer à compter d'aujourd'hui sur la modernisation de l'Office national de l'énergie. Jim Carr, ministre des Ressources naturelles, avait annoncé dernièrement la mise sur pied d'un groupe de 5 experts pour recommander à Ottawa des moyens de moderniser l'office. 10 villes canadiennes accueilleront le groupe aujourd'hui et demain à Saskatoon, et des rencontres à Toronto, Ottawa, Montréal, St. John, Fort St. John, Iqaluit, Edmonton et Vancouver suivront. La dernière rencontre aura lieu à Edmonton les 7 et 8 mars. L'office estime que les rencontres aideront à façonner l'avenir de la réglementation de l'énergie au Canada. Parc Canada vient de lancer un nouveau guide des lieux historiques nationaux du Canada de National Geographic. Le lancement marquait le 100e anniversaire du ministère, et pour souligner le 150e anniversaire du Canada, une version révisée et plus élaborée du guide sur les parcs nationaux et les aires marines de conservation du Canada a également été publiée. À Washington, eh bien, la controverse est de plus en plus présente alors que Sean Spicer, le secrétaire de presse de la Maison-Blanche, a dû répondre à de nombreuses questions concernant l'affirmation de Donald Trump sur une fraude électorale. Le président affirme que de 3 à 5 millions de votes auraient été placés de façon frauduleuse. Sean Spicer s'est contenté de dire mardi après-midi que le président avait fait cette affirmation après avoir consulté des documents. Spicer a cependant coupé court aux journalistes, refusant de dire d'où provenaient les dits documents. La Cour suprême britannique a rendu sa décision dans le dossier du Brexit. Le plus haut tribunal exige que le Parlement vote pour que le processus Brexit puisse débuter. Le jugement signifie que la première ministre Theresa May ne peut entamer des négociations avec l'Union européenne tant et aussi longtemps que les élus n'auront pas donné leur accord. L'échéance du gouvernement est le 31 mars. Le secrétaire du dossier Brexit, David Davis, a promis un projet de loi parlementaire dans les jours qui viennent. Le Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture vient de publier des rapports prévisions du marché du travail jusqu'en 2025 de l'industrie laitière et celle de la volaille et des œufs. Ces industries comptent 55 500 travailleurs. On apprend que l'industrie laitière a réduit sa main-d'œuvre de plus de 33% depuis 2009 grâce aux fusions, mais que 3 400 emplois sont demeurés vacants en raison du manque de travailleurs canadiens. Du côté de la volaille et des œufs, 15 900 travailleurs seront nécessaires et 1100 emplois pourraient demeurer vacants d'ici 2025. Les rapports soulignent que les départs à la retraite sont responsables de ces estimations. Journée Belle Cause pour la cause 2017 en ce 25 janvier. Clara Hughes, porte-parole nationale, déclare que tout le monde doit parler et se joindre au mouvement. Elle encourage les Canadiennes et Canadiens à joindre la conversation sur Twitter, Facebook et Instagram. Au sport au hockey, dans la Ligue nationale, victoire du Canadien 5-1 contre Calgary. Ottawa a blanchi Washington 3-0 et victoire de San Jose 4-3 contre Winnipeg. Ce soir, entre autres, Vancouver sera au Colorado et Edmonton à Anaheim. NBA maintenant, victoire de San Antonio 108-106 contre Toronto. Dans la NFL, eh bien, Ben Roethlisberger a déclaré qu'il n'est pas prêt à s'engager pour la prochaine saison. Le quart arrière étoile des Steelers de Pittsburgh envisagerait de mettre un terme à sa carrière. Roethlisberger a déclaré cependant qu'il voulait se donner du temps avant d'annoncer quoi que ce soit. Et Todd McNichols a été choisi par le Comité paralympique canadien comme chef de mission pour les Jeux paralympiques d'hiver de 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud.
C'était les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Bienvenue dans l'émission Le Débrief. Alexis Gagnon avec vous jusqu'à 17h. Quelques mots sur la météo avant d'aller au Radio-Journal des Nations Unies. Aucune précipitation actuellement à 16h05 sur le sud de l'île de Vancouver. On a 6 degrés au centre-ville. C'est pareil du côté de Vancouver. 6 degrés et 5 degrés à Nanaimo. Et pour les prochaines heures, une probabilité d'averse qui se situe à 40%. Donc, quelques passages nuageux en cours de soirée, une possibilité d'averse à 40%. Demain, jeudi 26 janvier, 7 degrés, 30% de probabilité d'averse et ça demeurera nuageux tout au long de la journée. Vendredi 27 janvier, 7 degrés encore, nuageux. Aucune précision sur les précipitations sur le portail météo.gc.ca. Et pour le week-end, si on se projette un petit peu plus loin, c'est le même scénario qui se répète. Donc 7 degrés samedi, 7 degrés dimanche, nuageux. Donc et les nuages, selon les pronostics émis par Environnement Canada, sont installés pour longtemps. On en a jusqu'à mardi 31 janvier. Donc voilà pour tous les détails, le site météo.gc.ca et on se transporte vers le Radio-Journal des Nations Unies. On se retrouve de l'autre côté dans une dizaine de minutes avec les nouvelles provinciales.
Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce journal de Nu Info. En titre, l'ONU condamne l'attentat contre l'hôtel de Mogadiscio en Somalie. Le nouveau chef de la mission de l'ONU au Soudan du Sud a rencontré le président Salva Kiir. Les violations des droits de l'homme ont augmenté de 30% en RDC en 2016, selon un nouveau rapport de l'ONU. Et l'OIM lance un appel pour venir en aide aux Syriens. Enfin, dans notre dossier, gros plan sur la crise humanitaire qui sévit dans la région du bassin du lac Tchad. Les Nations Unies ont condamné mercredi l'attaque terroriste contre l'hôtel d'Ajax à Mogadiscio en Somalie. Selon la mission de l'ONU dans le pays, il s'agit d'une tentative désespérée de perturber le processus électoral, la date des présidentielles ayant été annoncée pour le 8 février. Plus de 15 personnes ont été tuées et des dizaines blessées dans l'attaque. Joseph Contreras, porte-parole de la MINUSO, la mission d'assistance des Nations Unies en Somalie, revient sur les derniers détails de l'attaque.
Encore une fois, cela montre le désespoir d'Al-Shabaab qui tente de perturber ce processus électoral. Nous pensons que c'est un signe de faiblesse. Leur recours continu à des tactiques violentes est rejeté par la grande majorité des citoyens somaliens. Les derniers chiffres que nous avons varient, faisant état de 15 à 20 morts. Certains d'entre eux étaient les assaillants eux-mêmes, certains étaient des soldats somaliens et peut-être environ la moitié des civils. Des dizaines ont été blessés, dont au moins 5 journalistes. C'est un hôtel fréquenté par des parlementaires qui sont basés à l'extérieur de la capitale somalienne et restent à l'hôtel pendant les visites à Mogadiscio. Je n'ai pas d'informations confirmant la mort de parlementaires.
Au Soudan du Sud, le nouveau chef de la MINUS, la mission de l'ONU pour le pays, a souligné son soutien au gouvernement et au peuple de la plus jeune nation du monde. David Shearer a rencontré le président sud-soudanais mercredi à Juba, le chef de la MINUS qui a réaffirmé au président Salva Kiir l'engagement de la mission à soutenir les efforts visant à ramener la paix au peuple du Sud-Soudan. David Shearer.
En tant que personne nouvellement arrivée, je viens avec un esprit très ouvert. Et j'ai donc été heureux de m'entretenir avec le président et d'entendre ce qu'il avait à dire. Je lui ai souligné que l'ONU et la MINUS elle-même sont là pour aider les gens et que mon travail sera fait quand la MINUS pourra partir. Ce sera une bonne chose. Nous laisserons derrière les agences des Nations Unies qui peuvent fournir une assistance technique. La MINUS, comme je l'ai dit auparavant, fera de son mieux pour soutenir le gouvernement et bien évidemment les gens.
On passe à la République démocratique du Congo. En 2016, le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme a documenté au moins 5190 violations sur l'étendue du territoire de la RDC. Cela représente une augmentation de près de 30% par rapport à l'année 2015. Aussi, la grande majorité de ces violations sont attribuables aux agents de l'État, avec notamment 480 exécutions extrajudiciaires. Les violations liées à la restriction de l'espace démocratique, notamment liées avec le report des élections nationales initialement prévues pour 2016, ont augmenté de 400%, précision de José María Aranas, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC.
Ce qu'il faut souligner, l'augmentation des cas de violation du droit de liberté d'expression, association ou manifestation pacifique qui sont augmentés de manière dramatique de 400% l'année passée. La question de l'espace démocratique, c'était le point central de notre plaidoyer vis-à-vis aux autorités, d'un côté. De l'autre côté, la mission a changé les locations des ressources disponibles, ça veut dire les ressources militaires, policières et aussi des officiels des droits de l'homme, vers les provinces de l'Ouest, où la majorité de la violence politique ou de violation des droits de l'homme civil et politique ont été localisées. Je parle de la ville de Kinshasa, Lubumbashi, Goma, mais aussi Kisangani et les provinces de Kasaï ou Kalemi.
Et puis lors d'un point de presse à Genève, le porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations, Joel Milman, a déclaré sur fond de poursuite du conflit en Syrie que l'OIM appelle à verser 234 millions de dollars pour continuer à fournir une aide humanitaire en Syrie et aux Syriens réfugiés dans les pays voisins. De plus, en 2017, l'OIM entend intensifier ses opérations de protection et de relèvement précoce pour répondre aux besoins des Syriens qui luttent pour faire face à la crise prolongée. Jérôme Longuet.
L'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, appelle les donateurs à verser 234 millions de dollars pour fournir une aide humanitaire en Syrie et aux Syriens réfugiés dans les pays voisins. L'OIM qui entend en 2017 intensifier ses opérations pour mieux répondre aux besoins des Syriens qui font face à une crise prolongée. Il faut savoir en effet que près de 6,3 millions de Syriens ont été déplacés à l'intérieur du pays et ont besoin d'abris, de nourriture et de services de santé. Selon les estimations, près de 13,5 millions de femmes, d'hommes et d'enfants syriens auraient besoin d'aide humanitaire. De plus, depuis le début de la crise, près de 4,8 millions de Syriens se sont réfugiés dans les pays voisins, à savoir au Liban, en Jordanie, en Turquie, en Irak et en Égypte. Vivant dans des camps de réfugiés, dans des sites informels et dans des communautés d'accueil, ils sont confrontés à une multitude de défis, rencontrant notamment des difficultés à accéder à un emploi, aux services de santé, mais aussi des obstacles pour que leurs enfants soient scolarisés.
Retour sur l'actualité avec la crise humanitaire qui sévit dans la région du bassin du lac Tchad, où 11 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire immédiate, dont 7,1 millions qui se trouvent dans une situation d'insécurité alimentaire aiguë, résultat notamment du conflit avec Boko Haram. Telle est la mise en garde adressée cette semaine par le coordinateur régional humanitaire pour la région du Sahel, Toby Lanzer, de passage au siège de l'ONU à New York, l'occasion de le recevoir dans nos studios pour dresser un tableau de la situation.
Je pense que depuis les derniers 6 mois, on a eu l'occasion de mieux comprendre la situation, pas seulement dans le nord-est du Nigeria, mais dans le nord du Cameroun, le ouest du Tchad, le sud-est du Niger. Et c'est vraiment effrayant. Jusqu'aujourd'hui, on a 11 millions de personnes qui sont en détresse et elles ont besoin d'une assistance humanitaire immédiate, dont 7 millions. Qui sont dans une situation aiguë d'insécurité alimentaire. Ça veut dire que c'est des personnes qui n'ont même pas un repas par jour. Donc, une situation effrayante. 515 000 enfants cette année qui peuvent perdre la vie à cause de la malnutrition, qui est tellement sévère. On est allé dans des villages où il manquait totalement des enfants de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans. Et on a posé des questions, mais elles sont où les enfants? Ils ont perdu leur vie. Et je fais vraiment l'appel à la communauté internationale d'arrêter d'insister que c'est le Nigeria est riche et peut résoudre ce problème lui-même. Moi, je ne connais pas un seul État membre des Nations Unies, un seul pays qui pourrait faire face à une situation comme celle du nord-est du Nigeria qui par extension, touche aussi tout le bassin du lac Tchad.
Vous venez d'évoquer une situation atroce et vous vous êtes rendu sur le terrain. Alors justement, qu'avez-vous pu voir de vos propres yeux?
Des adultes qui peuvent presque pas marcher parce qu'ils manquent d'énergie. Des femmes avec quelques bébés ou des enfants qui sont encore en vie. Une destruction très sévère partout dans les zones rurales de l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria. Mais en même temps, et c'est vraiment un paradoxe, mais on sent toujours une résilience des personnes incroyables, une énergie. Une femme qui m'a dit, écoutez, dès qu'il y a vraiment la sécurité, moi j'ai survécu ici depuis 3 ans, mais je sens que ça va un peu mieux. Est-ce que vous pouvez m'aider à reconstruire ma vie? Je veux que mes enfants de 6 ans, de 7 ans aillent à l'école pour la première fois. Donc, les enjeux sont tellement graves. Je n'exagère pas. J'ai jamais vu quelque chose comme ça dans ma vie et j'espère pas le revoir.
D'où la conférence d'Oslo le 24 février. Quelles sont vos attentes?
Mes attentes de Oslo, c'est qu'il y a une participation très haut niveau par les États membres des Nations Unies et qu'il y ait vraiment un engagement par les États membres qui ont été un peu timides jusqu'à ce moment-là. Si on regarde ce contexte, il y a 4, 5, peut-être 6 pays qui sont très engagés, que ce soit la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Commission européenne. Mais il y a des autres États membres qui ont été très timide dans ce contexte. Donc, à travers de Oslo, on essaye de faire en sorte, avec la générosité de la Norvège, que les autres pays scandinaves, comme la Suède par exemple, les autres pays en Europe comme les Pays-Bas par exemple, puissent participer d'une façon plus dynamique.
Vous visez une somme particulière?
L'appel pour le bassin du lac Tchad pour 2017 à des besoins financiers de 1 milliard de dollars à peu près. Donc, à travers de la conférence, un pas très important vers ce but sera nécessaire pour sauver les vies et donner un espoir de vie aux millions de personnes qui ont été frappées par la violence extrême dans le bassin du lac Tchad jusqu'à ce moment.
Et c'est avec Toby Lanzer que se referme ce journal de Nu Info. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
Si vous venez de vous joindre à nous, vous êtes dans l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9 à Victoria. Il est 16h17 et des poussières. Nous allons nous tourner vers les nouvelles provinciales. On commence par la crise des surdoses d'opioïdes. 38 nouveaux lits pour aider des femmes à sortir de la toxicomanie. C'est la manchette qui paraît aujourd'hui sur le portail de Radio-Canada, Colombie-Britannique. Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Terry Lake, a annoncé mardi l'ouverture de 38 nouveaux lits pour traiter les problèmes de toxicomanie, lesquels seront exclusivement réservés aux femmes. Ces nouveaux lits seront situés dans le quartier du Downtown East Side à Vancouver. Terry Lake cite un partenariat avec la Régie de la Santé de Vancouver Coastal pour ces lits qui font partie de 500 places promises par le gouvernement de la Colombie-Britannique pour soigner la toxicomanie. Un centre de prévention des surdoses réservé aux femmes doit aussi ouvrir ses portes à Vancouver, mais pour l'instant, aucun échéancier n'a été communiqué, nous rapporte cet article de Radio-Canada. France Emmanuelle Joly, la directrice du collectif pour la santé des femmes de Vancouver Women's Health Collective, le VWHC, apprécie la rapidité avec laquelle les autorités de santé britanno-colombiennes ont mis en place ces 38 lits de traitement dans le quartier du Downtown Eastside, qui est particulièrement touché par la crise des surdoses aux opioïdes. Donc vous trouverez cet article aujourd'hui sur le portail de Radio-Canada. Donc la crise sanitaire se poursuit, la province est toujours en état d'urgence sanitaire dans ce dossier. On se tourne vers Victoria maintenant. Un nombre record de passagers pourrait précipiter l'agrandissement de l'aéroport de Victoria. C'est rapporté sur le portail de Radio-Canada également. Une augmentation de 8,5% dans le nombre de passagers à l'aéroport de la capitale britanno-colombienne l'an dernier accélère les plans d'agrandissement de l'aéroport international YYJ. Selon le vice-président des opérations de l'aéroport, James Bogus, l'augmentation des passagers à l'aéroport aéroports est une tendance qui se maintiendra à l'avenir. Nous avons vu 1,85 million de passagers en 2016, a-t-il déclaré. C'était un record bien inattendu, mais tout de même fantastique. Le VP aux opérations dit que l'aéroport cherche à attirer de nouveaux transporteurs pour offrir plus de destinations en partance de Victoria. L'an dernier, la compagnie aérienne Delta a commencé à offrir des vols directs entre Victoria et Seattle, mentionne cet article. L'agrandissement de l'aéroport de Victoria toucherait le terminal et la direction estime que les coûts liés aux rénovations se chiffrent à environ 10 ou 12 millions de dollars. Les fonds proviendraient de frais chargés aux passagers, de revenus liés au stationnement et de ventes de nourriture. Les travaux d'agrandissement de l'aéroport de Victoria commenceraient cet automne. Soins aux aînés, à présent, donc soins aux personnes âgées de Colombie-Britannique, une somme de 300 millions de dollars est demandée par un organisme à but non lucratif qui s'occupe des personnes âgées. Le gouvernement de la Colombie-Britannique, rapporte Victoria News, a l'obligation, selon cet organisme, de d'embaucher plus de personnel et de rehausser la qualité des installations des maisons de retraite des personnes âgées dans la province. Donc l'organisme en question qui fait cette demande, c'est le BC Care Providers Association. Vous trouverez la nouvelle dans le portail Victoria News à l'adresse vicnews.com. L'article mentionne notamment que 29% des Britanno-Colombiens croient qu'il n'y aura pas de soins appropriés pour eux lorsqu'ils atteindront l'âge de la retraite. Donc, vous trouverez cet article sur le portail vicnews.com. Autrement, dans les colonnes du Vancouver Observer, on a un article qui concerne BC Hydro et des communautés de Vancouverois vivant au centre-ville de Vancouver. BC Hydro, en effet, prévoit installer des stations électriques secondaires. Et deux sont en projet au centre-ville et l'une d'elles serait construite sous une école. Alors, qu'est-ce que cela signifie sur le plan sécuritaire? C'est ce que se demandent des résidents et des riverains du quartier. Donc, BC Hydro ferait des économies en s'installant ainsi sous une école avec cette station électrique secondaire et ça lui éviterait d'acheter des terrains. Les terrains sont très chers à Vancouver, on le sait, et il y aurait une contrepartie qui serait versée à la commission scolaire, donc un avantage financier sans doute. Donc les parents de cette école doivent se pencher sur cette offre que leur fait BC Hydro. C'est rapporté dans le Vancouver Observer en date du 25 janvier, et c'est sous la plume de Patty Bacchus. Would you send your child to a school built on top of an underground electrical substation? C'est le titre de cet article en forme de question. Donc, enverriez-vous votre enfant dans une école construite sur une station électrique secondaire? Autrement, toujours dans ce bloc provincial et local, l'agence Associated Press nous apprend aujourd'hui que trois YouTubers très célèbres de Vancouver ont plaidé coupables à des infractions importantes dans des parcs nationaux américains. Ça s'est passé récemment. Ils ont comparu et plaidé coupables. Il s'agit d'une chaîne qui s'appelle High on Life. Et cette chaîne est animée par un trio d'aventuriers qui font beaucoup de voyages. Et leurs vidéos sont très populaires. Nombre de ces vidéos ont été visionnées plusieurs millions de fois. Alors, ce qui se passe, c'est que ce trio est formé de casse-cou qui n'hésitent pas à se mettre dans des situations un petit peu extrêmes. Et ils ont commis des actes qui voisinent le vandalisme ou l'imprudence dans des parcs nationaux américains. Et ça s'est passé dans plusieurs parcs nationaux. Ils se sont fait attraper, bien sûr, et ils ont dû plaider coupables à des infractions importantes. C'est rapporté par Associated Press en date d'aujourd'hui, 25 janvier. Et on continue dans les infos de ce bloc provincial, dans les colonnes francophone de la presse canadienne côté anglophone. On a un article qui revient sur la crise des surdoses aux opioïdes. Cette fois, c'est pour nous apprendre que les conseillers municipaux de Vancouver sont en train de réfléchir sur la manière de dépenser l'argent qui provient d'une nouvelle taxe vancouveroise, une taxe immobilière de 0,5% qui a été levée pour emmagasiner des fonds qui iraient à la lutte contre les surdoses dans le centre-ville de Vancouver. Donc, les conseillers municipaux, nous dit la presse canadienne dans cet article, sont en train de réfléchir à des façons de dépenser cet argent fruit de cette nouvelle taxe municipale. Donc, il est question notamment de police de proximité et de la construction d'un nouveau quartier, d'un nouveau centre de police qui serait vraiment axé sur les services communautaires. C'est dans la presse canadienne côté anglophone. Et si on poursuit dans ce bloc provincial, Radio-Canada nous apprend qu'un village de Colombie-Britannique est sans eau potable depuis une semaine à cause d'un déversement de diesel. Des résidents de la ville de Vavenby en Colombie-Britannique, ça c'est au nord de Kamloops, sont sans eau potable depuis une semaine après un déversement de diesel dans la rivière North Thompson. Environ 250 personnes de la communauté obtiennent leur eau potable de la rivière. Trois échantillons ont été testés depuis le déversement et n'ont montré aucun signe détectable d'hydrocarbures dans l'eau. L'ordre de ne pas consommer l'eau demeure cependant en vigueur. Le district régional de Thompson-Nicolas a mis à la disposition des résidents des bouteilles d'eau et une grande quantité d'eau potable dont ils peuvent remplir des seaux. Le 16 janvier dernier, l'article rappelle qu'un camion avait percuté et glissé sur la chaussée glacée. Il s'était retrouvé dans la rivière North Thompson et c'est là que ont été déversés les 800 litres de diesel. Donc voilà, des résidents de Vavenby qui sont sans eau potable pour le moment. Et on termine avec une nouvelle encourageante qui met un petit peu d'optimisme dans ce bloc provincial. À Kamloops, les conseillers municipaux ont voté en faveur d'une mesure qui favorisera les abeilles. C'est sur le portail de Radio-Canada. Kamloops, première cité des abeilles de Colombie-Britannique. La ville de Kamloops en Colombie-Britannique bourdonne de jubilation depuis mardi. Son conseil municipal a voté unanimement pour une motion qui en fait officiellement une bee city, comme on les appelle, une cité des abeilles, à savoir une ville qui s'engage à protéger les pollinisateurs et leur habitat. Alors voilà, vous trouverez cette nouvelle sur le portail de Radio-Canada. Et toujours dans ce dossier de la protection des abeilles, j'apercevais sur Twitter, il y a quelques minutes à peine, que la Environmental Protection Agency américaine, donc l'Agence de protection de l'environnement aux États-Unis, avait reconnu que les pesticides causaient des pertes de population d'abeilles, mais toutefois, aucune mesure n'a été annoncée pour protéger les abeilles qui sont justement de grands pollinisateurs et qui sont si essentiels aux cultures et à la vie. Alors on s'arrête là-dessus, c'est le moment de faire une petite pause musicale, on va écouter une pièce récente de l'auteur-compositeur-interprète Louis-Jean Cormier, ça s'intitule « Complot d'enfants » et on se retrouve de l'autre côté pour les nouvelles du jour. Nous partirons Jean Cormier dans le débrief à 16h30. Merci d'écouter CILS FM 107,9. Vous êtes dans l'émission Le débrief. L'info se poursuit et on passe aux nouvelles du jour à présent. Accrochez-vous, il y a beaucoup de pourcentages dans la nouvelle dont je vais vous faire part à présent. Il est question de chiffres rendus publics par Statistique Canada concernant les langues officielles au pays. Les langues officielles, c'est un sujet bien sûr qu'on suit de près ici dans le débrief. Donc la nouvelle paraît sur différents sites médias. Je vous rapporte quelques lignes de l'article publié sur le portail de Radio-Canada. Le Canada de 2036 sera moins français et moins anglais. La proportion de Canadiens ayant le français ou l'anglais comme langue maternelle continuera de diminuer au cours des 20 prochaines années, selon de nouvelles projections de Statistique Canada. Le français demeurera néanmoins de loin la langue maternelle la plus parler au pays après l'anglais. Selon divers scénarios étudiés par l'agence fédérale, la population ayant le français comme langue maternelle passerait de 21,3 en 2011 à 17 ou 18% en 2036. Donc un recul d'environ 3 ou 4%. Un peu plus de 4%. Alors, la proportion de l'anglais comme langue maternelle, elle passerait de 58,7% à 52% ou encore 56%. Donc, ça n'est pas précis, mais il y a une nette diminution qui est projetée par Statistique Canada. Dans les deux cas, donc dans les deux pour les deux langues officielles du pays. Au Québec, continue cet article paraissant sur le portail de Radio-Canada, les citoyens de langue maternelle française constituerait entre 69 et 72% de la population en 2036, comparativement à 79% en 2011. Donc, il y a un recul aussi dans la province francophone du pays. Dans le reste du Canada, cette même proportion francophone pourrait passer de 3,8% à 2,7%. Donc, un déclin de 1% hors Québec chez les francophones sur un horizon de 2036. On continue dans cet article. Hors Québec, la proportion de la population ayant l'anglais comme langue maternelle diminuerait également d'ici 20 ans, passant de 74% en 2011 à 64% ou 69%. Donc, il y a un déclin important là aussi. Au Québec, les scénarios varient grandement, poursuit cet article, de 8,2 en 2011. La population anglophone pourrait s'établir à 7,9 ou 8,8% en 2036. Donc, traduction, au Québec, la proportion de l'anglais, langue maternelle, demeurerait sensiblement égale sur la durée 2011-2036. Alors, dans cet article, on lit que ces tendances s'expliquent par l'augmentation de la proportion d'immigrants au sein de la population canadienne et s'explique aussi par le maintien de la fécondité à des niveaux relativement bas et la hausse progressive du nombre de décès, puisque la population est vieillissante. Selon Statistique Canada, toujours, la population n'ayant ni l'anglais ni le français comme langue maternelle passerait de 6,9 millions en 2011, soit 20% de la population, à 10,7 ou encore 13,8 millions, donc à préciser, soit un pourcentage de 21,6 ou encore de 30% en 2036. Donc, pour les dire les choses en deux mots, il y aura une augmentation du nombre de citoyens qui n'ont ni l'anglais ni le français comme langue maternelle sur un horizon d'environ 20 ans au cours des 20 prochaines années. Et cet article, ou plutôt ces chiffres de Statistique Canada sont repris dans plusieurs médias. On les retrouve analysés également dans le portail de TFO, la chaîne francophone ontarienne. Et il y a bien sûr dans cet article de Benjamin Vachet, qui est blogueur sur le site de TFO.org, un accent particulier sur les communautés francophones en situation minoritaire, donc à savoir les communautés francophones hors Québec. Et Benjamin Vachet écrit « L'Ontario, l'Alberta, la Colombie-Britannique et les territoires verraient leur population qui utilise la langue française comme première langue officielle croître de façon générale entre 2011 et 2036. » Donc une petite note optimiste, pour ce qui concerne les provinces de l'Ontario, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, où l'on verra, selon Statistique Canada, le français progresser d'ici 2036. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de chiffres. Si vous voulez réviser tout ça, je vous encourage à aller consulter le portail de Radio-Canada, mais aussi l'article de Benjamin Vachet sur le portail de TFO, tfo.org. On reste dans les droits linguistiques et c'est un article qui paraît dans le journal Le Devoir sous la plume de Philippe Orfali. La Nouvelle-Écosse a violé les droits constitutionnels des Acadiens. La province accepte de réparer les torts causés par l'abolition de 3 circonscriptions protégées. La carte électorale de la Nouvelle-Écosse devra être redessinée car elle contrevient à la Constitution, tranche la Cour d'appel de la province qui reconnaît qu'en abolissant 3 circonscriptions acadienne en 2012, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a causé des torts importants à la minorité de langue française. Plus de 250 ans, après la déportation des Acadiens, la Nouvelle-Écosse est rappelée à l'ordre une fois de plus par la justice. La victoire est en partie symbolique, mais elle garantira une meilleure représentation des 34 000 Acadiens au sein des institutions démocratiques, estime la Fédération acadienne de Nouvelle-Écosse qui tente depuis 5 ans de faire invalider une décision de l'ancien gouvernement néo-démocrate de Nouvelle-Écosse. Alors, la Fédération s'est déclarée heureuse de l'ouverture que manifestait le gouvernement libéral qui a succédé au gouvernement néo-démocrate. Donc, ces trois circonscriptions seront rétablies dans la foulée d'un jugement qui avait été rendu par la Cour d'appel de la province. Donc, c'est une bonne nouvelle. Il y a rapidement un article sur les pipelines dans Acadie Nouvelle, le journal néo-brunswickois francophone. C'est sous la plume de Simon Delâtre. Cet article s'interroge sur l'avenir du pipeline Énergie Est qui est en projet actuellement. Donc, pourquoi s'interroge-t-il sur l'avenir de ce pipeline? Eh bien, parce que le gouvernement américain sous l'égide du nouveau président Donald Trump a donné son aval au projet Keystone. Donc le projet Keystone va être réanimé, va renaître de ses cendres. Ça, c'est un projet auquel s'était opposé l'administration Obama. Et donc, sachant que Keystone est rétabli, est-ce que ça veut dire que Energy East sera abandonné? Les deux pipelines sont sous la direction de la compagnie TransCanada. Donc c'est à suivre. Acadie Nouvelle s'inquiète justement de l'avenir d'Énergie Est. C'est un journal qui est favorable aux pipelines comme l'est le gouvernement du Nouveau-Brunswick actuellement. Les retombées seraient assez importantes du côté du Nouveau-Brunswick si le pipeline Énergie Est était construit. Voilà. Et on va refermer ce bloc nouvelles du jour avec deux autres nouvelles. Je commence avec une nouvelle qui concerne concerne le Parti libéral du Canada. C'est dans la presse canadienne. 4 ans de prison pour Jacques Corriveau, l'ancien organisateur du Parti libéral du Canada. Jacques Corriveau, qui avait été reconnu coupable en novembre dernier de fraude pour son rôle dans le scandale des commandites, a été condamné mercredi, donc aujourd'hui 25 janvier, au Palais de justice de Montréal à une peine de 4 ans d'emprisonnement. Celui qui a été décrit comme étant une figure centrale du scandale des commandites devra également payer une amende de 1,4 million sur une période de 10 ans. Cette somme correspond au montant fraudé que le gouvernement n'a pas été en mesure de retracer. L'automne dernier, un jury avait déclaré Jacques Corriveau coupable de 3 chefs, trafic d'influence, fabrication de faux documents et recyclage de produits de la criminalité. Après l'énoncé de la sentence, Jacques Corriveau, qui est maintenant âgé de 83 ans et visiblement sous le choc, a aussitôt été menotté et conduit dans le box des accusés. Et cette dernière nouvelle fermant le bloc nouvelle du jour concerne l'Europe et la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. C'est dans l'agence France-Presse qu'on retrouve cet article. Face au Brexit, l'Écosse songe à un nouveau référendum. La plus haute juridiction du Royaume-Uni a estimé que le gouvernement britannique ne pouvait activer l'article 50 du traité de Lisbonne qui déclenchera le processus de sortie de l'Union européenne sans un vote préalable du Parlement britannique. Donc ça, on en a parlé hier et Denis Lépine dans son bulletin en a fait mention un petit peu plus tôt en début d'émission. Donc voilà. Alors, résultat, l'Écosse n'est pas contente parce que ce jugement de la Cour avait aussi mentionné qu'il n'était pas utile, qu'il n'était pas nécessaire de consulter les parlements locaux, à savoir Pays de Galles, Irlande du Nord et Écosse. Alors ce sont des régions qui, contrairement à la majorité britannique, ont voté pour le maintien dans l'Union européenne. Donc, conséquence, l'Écosse se remet à rêver de son indépendance, en quelque sorte. Elle veut continuer à faire partie de l'Europe et s'oppose à la sortie voulue par la majorité d'électeurs britanniques, le Brexit. Donc, face au Brexit, l'Écosse songe à un nouveau référendum. C'est dans les colonnes de l'agence France-Presse. Fascinant développement. Je vous encourage à aller consulter ces articles. On fait une petite pause musicale. Je vous propose d'entendre l'artiste montréalais Peter. C'est tiré de son album Noir Eden et la pièce s'intitule Loving Game, et on se retrouve dans 3 minutes ou peut-être un peu moins avec quelques éditos et l'interview du jour. Fais-moi d'espérer. L'artiste Peter dans le débrief à 16h44. Merci d'être avec nous en direct ou encore en rediffusion dans la matinée du 26 janvier. Nous allons passer à la revue de presse des éditoriaux. Vous souvenez-vous du CETA, le CETA, c'est l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Il continue à faire parler de lui. Il y a de nouveaux développements. On en a beaucoup parlé à l'automne. Je veux vous lire quelques lignes d'un texte d'opinion paraissant dans le média français Humanité. Donc c'est un journal quotidien français, l'Humanité. Vous trouverez les textes sur le portail humanité.fr. Le titre, le CETA, la lutte continue pour le stopper. C'est en date du 20 janvier, alors que des négociations sur le TAFTA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et les USA, sont provisoirement suspendues. L'Europe s'apprête à ratifier un traité similaire avec le Canada, le CETA, à savoir l'accord économique et commercial global. Signé le 30 octobre dernier après plusieurs jours de blocage par des parlementaires de Wallonie qui souhaitaient obtenir des garanties supplémentaires, le texte du CETA n'a pas été modifié et les déclarations annexes n'en changent pas la portée. C'est toujours un accord toxique, peut-on lire dans ce texte paraissant dans l'Humanité, un texte toxique qui sera soumis à la ratification du Parlement européen début février, donc dans quelques jours. L'expérience de précédents accords de libre-échange est éclairante, continue cet article. L'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, a détruit des centaines de milliers d'emplois au Canada, aux États-Unis et au Mexique via le dumping social et les fusions absorption, qu'il a engendré. Les normes en matière de pollution, de sécurité sanitaire, de sécurité au travail, etc., sont considérées dans ces traités comme des barrières non tarifaires. Le CETA a pour objectif de les supprimer ou de les réduire drastiquement. Le traité ne reconnaît pas le principe de précaution et ne s'opposera pas à des politiques et s'opposera, pardon, à des politiques ambitieuses pour protéger les consommateurs, pour lutter contre le changement climatique ou la pollution de l'air. Donc, le commerce aura précédence sur les normes, la réglementation et le principe de précaution. Peut-on lire en substance dans cet article. Cet accord, poursuit ce texte, vise à réorganiser les processus de décision et à approfondir le processus de libéralisation sans retour en arrière possible. Ainsi, les lobbies industriels et financiers seraient directement impliqués dans l'écriture des lois et réglementations. Un système d'arbitrage sur l'investissement permettrait aux multinationales d'attaquer les États qui adopteraient de nouvelles réglementations menaçant leurs profits futurs. Si les eurodéputés ne rejettent pas le CETA lors du vote prévu au Parlement le 2 février, il sera mis en application provisoire, entre guillemets, dès le mois de mars 2017, en attendant les ratifications des parlements nationaux qui prendront des années. 4 eurodéputés socialistes se sont, il y a quelques jours, engagés à voter contre le traité. C'est peut-être le signe, poursuit ce texte, que les choses commencent à basculer à Bruxelles, Bruxelles étant la capitale de l'Union européenne. Donc voilà ce texte d'opinion paraissant dans le média L'Humanité sur le portail humanité.fr, très engagé bien sûr contre le CETA. Et on va se rendre bientôt à l'interview du jour. Je vous le disais en début d'émission, on est en compagnie de Normand Hébert, un habitué de CILS aujourd'hui pour parler de littérature. Donc on fait une petite pause, on reprend son souffle et on parle d'un sujet littéraire, l'auteur Patrick Modiano. C'est dans le débrief dans quelques instants. À tout de suite. Vous écoutez Le Débrief en fin de journée, votre rendez-vous info à l'antenne de CILS FM 107,9 à Victoria. Merci d'être à l'écoute. Alors, pour cette fin d'émission, dans le créneau interview, on fait un petit peu, en quelque sorte, l'école buissonnière. on s'écarte des sujets lourds, des sujets politiques, et on s'offre un peu de littérature. Je suis en compagnie de Normand Hébert. Bonjour Normand.
Oui, bonjour Alexis.
Alors Normand, aujourd'hui tu es en studio pour nous faire le compte-rendu de lecture d'un roman que tu as lu récemment. De quoi s'agit-il?
Oui, c'est un roman que j'ai découvert l'auteur Patrick Modiano.
Oui.
Et le roman que j'ai lu, c'est le roman qui porte le nom de Jeunesse perdue. Et c'est un... Je l'ai lu à trois reprises. C'est assez... Le nom complet, c'est Dans le café de la jeunesse perdue.
D'accord.
Et... J'ai été fasciné par son livre et ça m'a apporté à poursuivre mes lectures. Et là, mais j'en ai découvert un autre qui est Remise de peine.
Du même auteur.
Du même auteur, toujours de Patrick Modiano.
D'accord. Et alors, commençons par Dans le café de la jeunesse perdue. L'histoire se passe évidemment en Europe, en France.
Et oui, Paris, hein, plus précisément.
Est-ce que tu t'es senti projeté dans la vie parisienne?
Dans la vie parisienne et dans l'esprit que l'on retrouve dans les cafés. Parce que je peux dire que j'ai... Quand je suis revenu vivre à Montréal à un moment donné et j'ai fréquenté assez les cafés montréalais.
Oui.
Et ce qui circule comme énergie dans les cafés, c'est une énergie bien particulière. Et c'est ce que j'ai retrouvé et avec toute l'intrigue, parce que l'auteur est à la recherche un peu... L'auteur est à la recherche de son passé. Et à travers des personnages, des jeunes personnages... qui sont en quête, une quête existentielle un peu de leur vie. Et puis, son style littéraire m'a accroché immédiatement. Et ça m'a, et même si c'était l'histoire est déroutante, parce que honnêtement, je l'ai relu deux fois et presque une troisième fois. Pour saisir les personnages, parce qu'ils se recoupent, ils parlent de personnages plus âgés, ils voyagent dans le temps, ils parlent d'une période qui était une période qui est dans les années 60.
Les années 60, donc il remonte le temps et oui. Revisite dans sa mémoire les années 60 à Paris.
Oui, et il parle parfois de son enfance, qu'il y a eu une enfance qui s'est passée à Paris même. Il parle de son père aussi, mais il parle de ces gens-là qui sont un peu en quête d'eux-mêmes, mais puis qui sont, à un moment donné, il est narrateur, il est observateur, puis il est enquêteur dans son livre Le Café de la jeunesse perdue.
Est-ce que le narrateur de ce roman, Dans le café de la jeunesse perdue, est aussi un personnage, ou est-ce que c'est un observateur abstrait de l'action?
C'est un personnage, puis parfois il est le narrateur, donc il est à l'extérieur des personnages qui circulent, qui vont et viennent.
Oui.
Et une des fascinations, c'est que ces gens-là, ils n'ont pas de lieu fixe. Et il y a un des personnages du livre, du roman, qui est fasciné par ce phénomène de gens qui circulent d'un lieu à l'autre et sans domicile fixe, qui vivent dans des hôtels. Et mais qui vont toujours se retrouver dans ce café-là. Et c'est un café où les gens parlent de toutes sortes de choses et ils retournent dans le passé des gens. Et à un moment donné, un peu le noyau de son livre, c'est qu'à un moment donné, il est demandé, parce qu'il est enquêteur aussi. Et
que cherche-t-il à savoir? Une enquête policière?
Oui, une enquête policière. Il y a une fille qui s'appelle Lucky.
Ou une enquête de détective privé, plutôt, puisque le narrateur n'est pas policier.
Oui, parce qu'il est appelé à faire une enquête. On l'appelle, c'est un des personnages premiers de l'œuvre.
Mm-hmm.
C'est un homme qui, à un moment donné, sa femme rentre plus à la maison le soir. Et là, il est drôlement préoccupé. Et il fait appel à un enquêteur.
Mm.
Et l'auteur tombe dans ce rôle-là. Et finalement, il connaît la femme en question, Lucky. Et il voit que c'est une personne qui est en quête, vraiment une recherche sur elle-même. Et elle vit à différents endroits. Et finalement, il donnera jamais la suite de son enquête.
Ben oui, on reconnaît un petit peu la...
Il y a une nébuleuse dans la... cette... dans ce roman-là.
On dit souvent à propos de certains auteurs et de la plupart des auteurs même qu'ils écrivent toujours le même roman. Et ayant lu quelques livres de Patrick Modiano, je reconnais à t'écouter les thèmes, effectivement, de remémoration.
Toujours, le passé, c'est majeur dans son cheminement. J'ai pas lu ses œuvres au complet. Mais c'est ce que j'en ai lu pour avoir lu...
Il a longtemps abordé les questions entourant l'occupation allemande durant la Deuxième Guerre mondiale.
Oui.
Le thème de la mère et de l'abandon est également récurrent.
De son frère et lui qui ont été abandonnés à un jeune âge.
Et il y a des éléments autobiographiques là-dedans, évidemment.
Oui.
C'est un auteur qui écrit depuis les années 60. Donc
il est né en 45.
Voilà.
Donc,
et on peut peut-être dire aux auditeurs qu'il a reçu le Nobel pour ceux que les...
Oui, l'ensemble de son œuvre.
C'est ça. Donc, toi, j'imagine, ce roman, dans le Café de la jeunesse perdue, t'encourage à lire d'autres livres de Modiano?
Oui, on m'a dit, moi, qu'un livre à lire que j'ai pas eu l'occasion de mettre la main dessus encore, c'est Pedigree.
D'accord.
Pedigree, paraît, c'est l'œuvre qui vraiment englobe tous ces... Parce que c'est lui, c'est sa vie à lui. Et
oui.
Ça nous permet de nous mettre en... de positionner l'auteur vraiment dans le temps et par rapport à l'ensemble de son œuvre.
Intéressant.
Et parce qu'il a écrit pour la jeunesse aussi, des romans jeunesse.
Oui.
Quelques pièces de théâtre et puis aussi plusieurs récits, des romans.
C'est un auteur fascinant et tous ses livres finalement se répondent et s'interpellent. On voyage beaucoup avec lui, on voyage dans le temps. Et je peux certifier à nos auditeurs que la bibliothèque municipale de Victoria compte des livres de Modiano dans ses rayons.
Oui, et il y en a en français, de même il a été traduit, il est très traduit en anglais. Il y a plusieurs œuvres en anglais, mais c'est toujours mieux de lire dans la langue d'origine.
Évidemment. Et la bibliothèque de l'Université de Victoria, la bibliothèque de UVic, compte aussi beaucoup de livres de Patrick Modiano également.
Ah, tu vois, c'est un endroit que je n'avais pas...
Et la carte de Bibli de UVic est gratuite. Alors ça, c'est important
oui,
de
c'est
le mentionner
vrai,
aussi. C'est une carte citoyenne qui permet d'emprunter à volonté. Aucun frais.
Et dans les bibliothèques municipales aussi, il y a des œuvres qui circulent de
absolument.
Dépendamment des succursales.
À la succursale centrale ici sur Broughton, on a des livres de Modiano également. Normand, un gros merci pour ce petit clin d'œil littéraire dans Le Café de la jeunesse perdue, un roman de Patrick Modiano paru en 2007. Merci beaucoup, Normand.
Ça m'a fait plaisir. Au revoir.
Voilà, c'est tout pour le débrief. C'est sur ces notes de la formation Jazz Jag que se referme l'émission du jour en ce 25 janvier. Merci de nous avoir suivis en direct ou encore en rediffusion dans la matinée du 26 janvier. On a 6 degrés au centre-ville de Victoria. Ça descend à 4 en soirée avec une probabilité d'averse de 40%. Demain, c'est nuageux avec 30% de probabilité d'averse. Excellente soirée. À demain à tous. Même heure, même fréquence.
CILS FM, la voix de votre communauté.
L'Odyssée du rythme. Une émission préparée et présentée par Philippe Godefroy. À la technique, Nicolas Fisch. L'Odyssée du rythme va vous transporter vers des horizons de couleurs musicales différentes à travers le temps par ses notes enjouées et vous fera connaître et reconnaître des mélodies avec son histoire et ses anecdotes, qu'elles soient musicales, vocales ou instrumentales, pour lesquelles elles ont su donner ses lettres de noblesse. Bon voyage !